Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Dieu veut vraiment établir sa royauté sur la terre dans le sens d'influence de chaque personne.
Et
à partir du moment où chaque chrétien rentre dans l'influence divine, il peut amener cette influence divine partout où il est. Et c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons besoin de leaders chrétiens. Mais pas seulement des gens touchés. Nous avons besoin de gens transformés. Pas seulement des gens qui confessent Jésus, ça c'est une étape indispensable pour aller au ciel. Mais si tu veux transformer ton environnement, tu dois toi-même être transformé. Tu dois toi-même être passé par une mort et une résurrection dans chaque domaine de ta vie. Et c'est notre sujet aujourd'hui qu'on va continuer. Et j'avais déjà fait une première partie la dernière fois. Et je vais vous montrer les principes divins qui vous permettront de faire un vase communicant entre les choses que vous faisiez avant et les choses qui doivent émerger, qui doivent ressusciter dans votre vie pour qu'elles soient touchées et bénies par Dieu. Parce que souvent, nous les croyants, on veut que Dieu touche nos situations. Et c'est bien. Et nous pensons souvent que c'est simplement par la prière que les choses vont se passer. Et la prière et la foi ont vraiment leur rôle, un rôle absolument indispensable. Mais souvent tu vas prier et ta mentalité va bloquer les choses. Ta façon de faire ne va pas être la bonne façon de faire. Ce qui fait que tout ce que tu peux prier, tout ce pourquoi tu peux croire, risque d'être bloqué. C'est ce que Ephésiens 4 nous dit. Nous avions étudié ce passage.
Et
c'est vraiment un passage par lequel Dieu me parle dans le sens d'expliquer au corps de Christ. Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre quelque chose de la vie de Dieu dans nos situations? Pour que la vie de Dieu se manifeste, il faut obligatoirement qu'il y ait une mort. Et pour cette mort, il faut une certaine souffrance selon Dieu. Et ça, il faut bien le comprendre. Sinon, les gens se font des illusions. On leur dit, recevez Jésus, ils reçoivent Jésus. Ils sont touchés par le Seigneur. Et après, dans la vie de tous les jours, ils sont dans l'échec. Ils courent de petit truc en petit truc où il faut qu'un prédicateur prie pour eux et que tout change d'un seul coup. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Se demandant pourquoi ça ne va pas.
Tu
as prié pendant 10 ans pour quelque chose et tu ne le vois toujours pas. Et tu dis, Dieu est en train d'attendre. Non, Dieu n'est pas en train d'attendre. Il est en train de t'attendre, toi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas en train d'attendre. Il est en train de t'attendre, toi.
Oh,
redis-lui parce qu'il n'a pas encore bien compris. Amen. Le problème, il est là. Le jour où tu comprends ça, tu commences à comprendre un certain nombre de choses. Donc nous allons relire très brièvement ce texte. Je vais juste le relire en français dans Ephésiens 4. C'est Paul qui nous exhorte, il parle à l'église. Et il dit, voici ce, donc, ce que je teste dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc nous savons, versets 18 et 19 nous expliquent, enfin 17, 18 et 19 nous expliquent vraiment la condition du païen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, à partir du verset 20, là, il va nous parler à nous, chrétiens. Chrétiens nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si
vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire dans vos mentalités littéralement, dans vos façons de penser et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Puis après, à partir du verset 25... À partir du verset 25, il dit ce que nous devons faire pour nous dépouiller. Et rappelez-vous que là, nous avons vu qu'il n'y a pas besoin de prière pour ça, c'est une décision. Rappelez-vous que là, on parle de sanctification. Et la sanctification, c'est d'abord le nettoyage dans nos vies, mais aussi l'approche dans la relation avec Dieu, au travers de laquelle Dieu va couler au travers de sa vie, dans nos situations. Et très malheureusement, souvent, nous avons prêché, on a entendu prêcher très souvent dans beaucoup d'églises que la sanctification c'est simplement couper avec le péché. Donc finalement tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça. Ok, tu vas plus en boîte de nuit, d'accord, ça c'est tout à fait vrai, tu peux plus aller trafiquer avec les démons, ça c'est clair. Tu peux pas aller danser sur la musique des païens et être en pleine convoitise avec des gens qui sont ivres et qui trafiquent avec des démons. Sinon, tu vas t'en ramasser quelques-uns. Et après, tu dis, Seigneur, ma vie spirituelle, ça va pas. Oh. Ben, c'est normal. T'es influencé par un monde satanique et tu te plains qu'après, ça ne va pas dans ta vie. Ça, c'est normal. La Bible nous dit de ne pas nous enivrer. La Bible nous dit de ne pas mentir. La Bible nous dit de ne pas voler. La Bible nous dit. Ça, c'est une partie de la sanctification. Ça, c'est la mort, c'est le dépouillement de notre vieille nature. Et je vous ai expliqué qu'il y a certains péchés ou certaines tentations qui sont partis instantanément le jour où vous êtes né de nouveau. Parce que ces péchés provenaient de la source spirituelle, votre esprit à l'époque. Mais il y a des choses, vous avez été entièrement libéré, et d'autres choses, vous sentez qu'il y a encore des combats en vous. Et maintenant, c'est sur ces choses-là que vous devez travailler au niveau de votre âme, votre personnalité. Je vous expliquais ça là au dernier sermon. Maintenant, je vais vous expliquer qu'il y a certaines choses. Avant de voir Dieu ressusciter et intervenir dans vos situations, nous avions pris l'exemple où Paul dit ici dans la suite que celui qui dérobe ne dérobe plus mais qu'il vive honnêtement. Donc tout ce qui va être vol, corruption, c'est fini. Mais d'un seul coup, tu te retrouves à avoir des revenus très aisés parce que tu trafiquais, à des revenus beaucoup plus bas. Et là, tes chers amis commencent à te regarder. Tu dis que tu n'es plus d'accord pour faire telle ou telle chose. Et c'est normal. Tu ne fais plus tel ou tel truc. Tu ne fais plus de corruption. Tu ne voles plus, tu ne te mets plus avec tes amis pour faire des coups. Donc évidemment, tes revenus vont dramatiquement
chuter.
Et au début, tu es fier, tu dis, moi maintenant j'ai Jésus, je ne trafique plus avec vous les gars. Et puis les autres viennent te voir et te disent, ah bon, c'est quoi cette histoire? Si, vous venez plus me voir. Moi aller faire des vols, des histoires de corruption. Non. Et après, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croisent bien les bras, ils diront, on va voir. Et là, tu te retrouves dans le feu. Et aujourd'hui, on va parler de la souffrance. Et ça, les chrétiens, souvent, ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que quand on parle de souffrance, on dit, aïe, ça va faire mal. Eh oui, ça fait mal. Mais avant que Jésus ait pu nous donner la vie, il est passé par la mort. Et la mort a impliqué des souffrances. Parce que Jésus a renoncé, qu'il a vécu certaines souffrances, selon la volonté de son Père, c'est là où il a pu ressusciter. Si vous voulez voir Dieu agir dans vos situations pleinement, parce que vous pouvez aujourd'hui vivre une prospérité naturelle, mais vous pouvez aussi vivre une prospérité surnaturel. Quelle est la différence entre les deux? La première est faite souvent de bonnes circonstances.
Tu
as fait un bon héritage. Tu reprends l'entreprise de papa. Tu as eu un bon boulot parce que tu étais le cousin du roi. Tout ça, c'est des bonnes choses. Tant mieux. Tu peux t'en réjouir. Mais ça, ce n'est pas une prospérité surnaturelle.
Tu
es quelqu'un de très intelligent. Tout va très bien. Tu as bien réussi tes études. On t'a donné un bon poste. Et tu as prié pour ça. Tout ça, c'est très bien. Ça te met dans une situation tout à fait confortable. Ça,
ce
n'est pas une prospérité surnaturelle. Ça, c'est bien se débrouiller. C'est être stable. C'est être un bon gestionnaire. C'est avoir des bonnes qualités de caractère. Indispensable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Indispensable. Mais vous verrez qu'il y a des gens du monde qui prospèrent très bien. Bill Gates a commencé, celui qui a fait Microsoft, dans son garage. C'était un fou d'informatique. Il a eu des opportunités. Il a flairé le gros coup du siècle. C'était au siècle dernier quand même. Il a vraiment flairé ça. Il s'est bien positionné. Quand il a bien monté au bout d'un moment, il a bien écrasé les autres pour ne plus avoir personne qui soit sur son chemin. Et d'un seul coup, ça a explosé. Et il est devenu l'homme, à l'époque, maintenant c'est le plus riche de la Terre, mais qui était le plus riche de la Terre. Est-ce que Bill Gates a fait de la sorcellerie? Non. Non, il a utilisé des principes humains. Il a été intelligent. Bon, dans son parcours, tout n'a pas été forcément bien impeccable. Mais c'est un homme qui a ultra prospéré. Et pourtant, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu.
Ah,
mince alors. Là, on est bien embêté. Non, Dieu a une prospérité surnaturelle pour chaque chrétien. Mais là encore, que ce soit la prospérité surnaturelle, que ce soit les relations. T'as abandonné ton copain avant ta conversion. T'as abandonné ta copine avant ta conversion. Et maintenant, t'es dans l'église. Et tu regardes les garçons. Seigneur, pas celui-là, s'il te plaît. Et tu regardes à gauche. Oh non, Seigneur, celui-là non plus. Et il y en a un qui chante très fort dans tes oreilles derrière, qui t'a repéré. Oh Seigneur, c'est pas possible. Ou alors tu fais comme certains qui louent. Qui louent à droite. Qui louent à gauche. Qui louent devant. Et qui se retournent pour louer derrière. Je n'en rajouterai point, vous avez compris le message. Vous savez, c'est très bien de parler à la Burundaise, hein, je comprends. Dans mon éducation, je n'ai pas été habitué à faire ça, mais maintenant, je m'en sers de plus en plus. Alors, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un temps où tu t'es dépouillé. Mais il doit y avoir quelque chose qui doit ressusciter. Parce que si ça ne ressuscite pas, il va se passer des choses tragiques dans ta vie. Soit tu vas vivre une vie chrétienne malheureuse, terrible, horrible. Et au lieu de t'épanouir, tu vas devenir quelqu'un de triste, de déprimé, de malheureux, à vivre dans ton petit coin, à ne pas vouloir bouger parce que tu auras peur de pécher. Christ t'a affranchi et tu es remis sur le joug d'une espèce de religiosité. Et ça, c'est horrible. T'as l'impression d'être lié. Tu sais qu'il ne faut plus que tu fasses ça parce que ça déplaît au Seigneur qui t'a sauvé. Mais d'un autre côté, tu n'as pas vécu le processus de résurrection. Et le processus de résurrection passe par le processus de mort et le processus de souffrance. Mais la souffrance selon Dieu. Alors souvent quand on parle aux chrétiens de la souffrance, les gens sont là, Et comme ils lisent leur Bible, tout de suite ils pensent à Job. Ah oui, d'accord, pasteur, je vois ce que tu veux dire. Il faut que je sois pauvre. Il faut que je sois malade. Il faut que je sois moche. Il faut que je sois bête. C'est comme ça que Dieu me tient dans l'humilité. Non, ça c'est pas la souffrance. Ça c'est la religion. Les religions prêchent ça. Les religions ne prêchent pas l'épanouissement parce qu'elles ont aucun épanouissement. Les religions ne prêchent pas l'épanouissement parce que l'épanouissement, le vrai épanouissement, vient selon Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé pour une destinée. Il a mis des choses en toi. Donc tu renonces à certaines choses. Mais maintenant tu vas être dans la casserole. La casserole de l'épreuve. Rappelez-vous que l'épreuve et la tentation ne sont pas les mêmes choses. La tentation vient du diable. Objectif, nous faire chuter. Objectif, nous dégrader. Objectif, nous ramener vers l'avilissement et l'esclavage. L'épreuve vient de Dieu. Et l'épreuve va purifier ton caractère et ta foi. L'épreuve n'est pas la maladie. L'épreuve n'est pas la mort prématurée. Souffrir selon Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est souffrir selon la religion. Ça, c'est avoir mal et finalement dire « Oh, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Lorsque Job a dit ça, quand on étudie la condition de Job à ce moment-là, il n'avait rien compris à l'amour de Dieu. Il n'avait rien compris. Il ne savait pas que c'était Satan qui venait l'attaquer. Et il a mis ça sur le dos de Dieu, pensant être super spirituel. Ah, le Seigneur attend. Le Seigneur ne veut pas encore me le donner parce qu'il a ses raisons. C'est grand secret. Non, le Seigneur n'attend pas, il t'attend, je te rappelle. Il attend que ton caractère soit creusé. Il attend que ta foi soit purifiée. Et pour ça, tu vas être obligé de passer par des temps de souffrance. Regardons ensemble ce que Jésus dit. Regardons dans plusieurs passages. On a plusieurs passages. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Je vous explique un principe très important ici qui est fondamental. Jésus va dire, donc, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Luc 9, verset 23.
Cet aspect de renoncer à soi-même et de porter sa croix. Il y a bien eu des stupidités qui ont été enseignées là-dessus ou prêchées, je peux vous le dire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, 9, 23, Luc. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus nous parle de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Renoncer à nous-mêmes et porter sa croix. Dans un autre passage, dans Luc
14,
Jésus parlera du prix à payer. Comptez avant ce que ça va nous coûter.
Si
quelqu'un veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il s'assoit et regarde combien ça va coûter. Et une fois qu'il a bien vu combien ça va lui coûter, il regarde s'il a la capacité. C'est la même chose dans ta vie chrétienne.
tu dois savoir ce que tu veux. Mais sache une chose, il va y avoir un temps avant la résurrection de ta situation. Tu vas passer par de la souffrance. Quelle va être la souffrance du chrétien? La souffrance du chrétien, je vous rappelle, n'est pas d'être malade. Dieu n'a pas envoyé la maladie, il n'en a pas envoyé. Dieu n'est pas celui qui pillera tes biens, ça c'est Satan qui vole. C'est pas Dieu qui t'enlèvera des relations. C'est toi qui les enlèveras si tu les juges, tu juges qu'elles sont mauvaises. Donc tout ça c'est toi qui vas le faire, mais c'est pas Dieu qui l'enlève. Par contre, tu as un temps où si tu veux voir la vie de Dieu couler dans ta vie,
et
bien il va falloir que tu souffres, que tu subisses certaines choses. La Bible nous parle d'être persécuté. La Bible nous parle qu'on va se moquer de nous. La Bible nous montre qu'il va y avoir des pressions. Quand, si tu veux voir vraiment la gloire de Dieu, sache que tu auras des pressions. En général, les premières pressions, ce sont les pressions familiales.
Ou
quand on se donne au Seigneur, il y a des pressions. C'est quoi ton histoire de Jésus? Qu'est-ce que tu fais chez les protestants? Qu'est-ce que tu fais chez ces gens-là? Ce sont des voleurs, des escrocs. Ensuite, tu veux commencer à marcher dans la foi. Et d'un seul coup, tu t'aperçois que tu as toute une opposition et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu prends des résolutions et d'un seul coup, tu commences à souffrir.
Alors,
reprenons l'exemple des finances, parce que c'est vraiment un exemple sur lequel je veux beaucoup illustrer. Tu t'es donné au Seigneur. Tu nettoies la façon dont tu fais des finances. Donc, pour un temps, tu vas te retrouver plus bas. Et là, tu auras des pressions. Parce que peut-être que tu as des dettes à payer. Peut-être que tu vis un train de vie juste au moment où tu te convertis, tu es un train de vie assez extravagant, et d'un seul coup, tu te retrouves en étant sauvé avec moins de revenus. Ou tu refuses de trafiquer au boulot et ton patron te dit si c'est comme ça, dehors. Donc, tu te tiens pour la justice. Et tu as des ennuis. Vous savez que marcher avec Dieu nous amène des ennuis. Amen. Oh, les gens ne veulent pas entendre ça. Ça nous amène des ennuis. De sérieux ennuis. Parce que Satan n'est pas content. Donc il utilise les hommes pour essayer de nous faire chuter, pour essayer de nous faire retourner en arrière. Et alors d'un seul coup tu subis des pressions. Et comme bon chrétien tu pries. Tu dis, Seigneur, on m'a chassé du travail. Et suppose que tu as été chassé non pas parce que tu as fait une gaffe.
Hein.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chassés du travail parce qu'ils lisent leur Bible, ils prient pendant le travail, ils arrivent en retard parce que le Seigneur était en train de leur parler et qu'il faut que le patron obtempère et qu'il comprenne la situation. Ils sont moins productifs qu'un inconverti. Ils se font chasser. Et ils disent, ah Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas Seigneur qui a fait des choses. C'est toi qui subis les conséquences de ton attitude. C'est pas non plus le diable. Dans ce cas-là, non. Par contre, il y a des choses pour lesquelles tu te tiens. Ou parfois, tu peux avoir des ennuis. Il y a des gens qui se sont fait chasser de la maison. Qui se sont fait chasser du travail. Qui ont bien des ennuis. Parce qu'ils ont dit, moi je suis désolé, maintenant j'ai reçu Jésus, je n'accepte plus de faire telle ou telle chose. Et à ce moment-là, ils se sont retrouvés dans des sacrés problèmes, dans des tempêtes. Et là, tu es dans le feu. Donc, il va y avoir une souffrance. On pourrait donner plein d'exemples de ce genre. 1 Pierre 3. Pierre nous parle de la souffrance. Pierre avait beaucoup souffert. Et il a beaucoup souffert. D'ailleurs, il est mort crucifié à l'envers. Jésus avait prophétisé sa mort. À la fin de l'évangile de Jean,
je n'ai
pas le temps d'aller voir ça, mais Pierre savait ce que c'était que la souffrance.
1
Pierre 3.
Verset 14. Jusqu'au verset
17.
Il y a un temps de souffrance avant de voir Dieu agir avec sa vie. Et ce temps-là, c'est le temps le plus difficile. Où ta foi va être éprouvée. Tes convictions vont être éprouvées. D'ailleurs, verset 14, quand vous souffririez pour la justice, pour ce qui est juste, qui est droit, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et avec crainte, en ayant une bonne conscience, afin que ceux-là même qui vous calomnient, ceux qui vous diffament votre bonne conduite en Christ, soient confondus. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.
Ngivyo bavyiza nuko mwobabazwa muhowe gukora ibyiza arico Imana igombye hako muhogwa gukora ibibi kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha umugorotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana yishwe umubiri ariko yahinduye muzima mu buryo bw'impwemo nibwo yagiyemo abarira impwemo ziri mwibohero ijambo y'Imana n'ibindi bintu bindi.
Chapitre 4 verset 12. Pierre parle encore de la souffrance.
Kana 12 Petro yongera kuvuga kubijanye n'imibabaro.
Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise, le feu qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous avez quelque chose d'étrange.
Ngo abangunda umuriro uri hagati yanyu kubagerageza ntukabatangaze nkaho mubonye katabonetse.
Ça c'est des chrétiens, il y a des gens qui se donnent au Seigneur.
Hari abantu baza ku Mana.
Et ils disent, je prie à droite, je prie à gauche, je n'ai que des ennuis, rien ne va dans ma vie.
Akavuga ati ndasenga hirya ndasenga hino mfise ingorane gusa ntakigenda neza mu buzima bwanjye.
Et des gens qui vraiment font le bien.
Kandi ugasanga umuntu agendageza kugendera mu byukuri mu byiza.
Pierre nous dit, si, c'est pas étonnant.
Petra atugira ngo ati ntibitangaje.
C'est pas étonnant. Il y a un feu qui peut s'allumer autour de nous. Et Pierre nous dit ici, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Regardez ce qui est dit verset 15. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou se mêlant des affaires des autres. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu.
Ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi canke kuba igisoma canke kuba inkozi y'ikibi canke kwita mu byo atagezwemo ariko ntihagire uhogwa kuba mu Kristo yoya kumaramara ariko ahesha Imana icubahiro kubw'iryo zina.
Alors, il faut savoir qu'un chrétien va souffrir pour différentes raisons. Si tu souffres aujourd'hui, tu dois te poser la question, pourquoi je souffre? Parce qu'il y a une souffrance qui va amener la vie de Dieu dans ta situation. Et il y a une souffrance qui est complètement inutile. La première des raisons pour lesquelles un chrétien va souffrir, c'est pour l'ignorance qu'il a de la parole de Dieu. Donc en fait, quelqu'un est en train de souffrir. Par exemple, il est malade et il a une mentalité non transformée et il pense que Dieu lui a envoyé ça pour le sanctifier, pour le bénir, pour l'éprouver entre guillemets. Ça, c'est une ignorance. Quelqu'un reste dans la pauvreté parce qu'il ne connaît pas du tout les principes de la prospérité. Quelqu'un, je dirais, il ne connaît pas certains principes relationnels avec son Dieu aussi, il ne sait pas comment toucher le ciel. Donc il prie, puis rien ne se passe. Il y a ignorance de la parole. Donc en fait, c'est une souffrance inutile. Il subit quoi? Il subit les circonstances du monde. Il subit les attaques sataniques et finalement il pense que ça il doit subir et que ça ne changera pas. Il prie, il espère que Dieu va faire quelque chose un jour pour lui.
corrige.
Et
cette personne souffre inutilement. Parce que si elle avait la connaissance de la parole de Dieu, elle pourrait transformer ses situations. Donc ça, c'est une souffrance inutile, non scripturaire et religieuse. Cette souffrance n'amène rien. Elle n'amène qu'une chose. C'est à ce qu'une personne soit quasiment en train de mourir dans son âme, entre guillemets. Il y a tellement de chrétiens qui dans leur âme sont en train de mourir. C'est-à-dire ils ne sont pas épanouis. Ils sont tristes, ils sont malheureux. Leur situation ne change pas. Ils vivent des choses, ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de paix. Ils sont là en train d'avoir des fardeaux toute la journée. Ils parlent, moi j'ai un fardeau. On va partager le fardeau, mon frère. On va prier pour le fardeau, mon frère. Et il y a encore plus de fardeaux. Et chaque jour, il y a un fardeau qui s'ajoute. Et la personne, elle est là. Mais tous les dimanches, elle est à l'église. Elle dit que Dieu est puissant. Mais la puissance de Dieu, dans sa vie, il faut la chercher avec un microscope. Ça, c'est des gens ignorants. Que Dieu bénisse les gens ignorants.
Amen.
La deuxième raison pour laquelle on peut souffrir, c'est à cause de notre péché. Il y a des moments où tu souffriras à cause de ton péché. Parce que si tu te mets dans le péché, tu vas souffrir. Tu vas souffrir par rapport à l'église, par rapport à tes frères et sœurs en
Christ.
Tu vas souffrir par rapport à ta famille.
Tu
vas souffrir par rapport à toutes choses.
Et
c'est normal. Tu subis les conséquences de tes actions. Et quand un chrétien se met dans le péché,
eh
bien, il va souffrir. Il y a un temps de souffrance. Un temps où il va se repentir, mais des fois il y a des conséquences du péché, et parfois ça dure longtemps, et tu dois porter ces conséquences. Ça, ce n'est pas non plus une souffrance selon la volonté de Dieu. C'est une souffrance que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Et parfois il y a des chrétiens qui sont comme ça, des chrétiens charnels, qui retombent dans le péché. Ils se mettent eux-mêmes dans des situations de péché. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il souffre. Il souffre de toutes sortes de manières. Parce que quand on est dans le péché, on ne peut pas voir la puissance de Dieu. Quand on est dans l'ignorance, on ne peut pas voir la puissance de Dieu non plus. Et quand tu es dans le péché, ton cœur ne va pas. Ta relation avec Dieu ne va pas. Plein de choses ne vont pas. Donc, d'un côté, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Mais tu ne peux pas t'épanouir. Parce que la puissance de résurrection ne peut pas venir. Dans tes situations, rappelez-vous, il y a ces deux volets. La sanctification, c'est je renonce à la vie de péché. Mais
ce
n'est pas seulement ça.
C'est
je m'approche de Dieu. Et le fait de m'approcher de Dieu, je change ma mentalité. Et Dieu vient dans mes situations. Et là, je m'épanouis. Je m'épanouis spirituellement. Je m'épanouis dans mes relations. Je m'épanouis financièrement. Je m'épanouis dans mon corps, dans la bonne santé. Je m'épanouis dans tous les domaines. C'est ce que Dieu veut. Mais pour que ça se passe, la mort doit être opérée. La mort, le dépouillement de notre vieille nature. Mais après, il faut continuer. Donc, il y a ce temps de souffrance. Ce temps où tu vas subir des choses. Donc, Pierre nous le dit ici. Que personne de vous ne souffre comme malfaiteur, comme meurtrier, en fait, comme quelqu'un qui a péché. Ça, c'est complètement inutile. Complètement inutile. L'ignorance vous fera souffrir. Ignorer la parole de Dieu, ignorer comment Dieu fonctionne. Maintenant, le troisième type de souffrance, c'est quelqu'un qui attend d'une façon active l'accomplissement des promesses de Dieu, qui est dans un temps de restauration. Un temps de restauration. Tu es là, tu as nettoyé ta vie et tu commences à être restauré dans ton âme, dans ta personnalité. Tu commences à être reconstruit. Tu commences à absorber la parole de Dieu. Tu commences à travailler ton caractère. Tu commences à te remettre en question. Tu commences à vouloir changer tes façons de penser. Mais En attendant,
ce
n'est pas quelque chose qui est encore mûr en toi.
Ta
foi est encore petite. Donc, quand tu pries, tu ne vois pas vraiment ce que tu veux voir. Mais tu es en chemin. En attendant, tu souffres. On reprend l'exemple financier. Tu as renoncé à des choses. D'un seul coup, tu te retrouves avec beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins de revenus. Mais tu avais un style de vie beaucoup plus important. Donc tu dois réajuster ton style de vie vers le bas. Ça, c'est une souffrance. Tu es habitué à être très à l'aise, puis d'un seul coup, tu vas commencer à un peu plus compter. Ce n'est pas agréable, mais là tu es en train de nettoyer ta vie. Par contre, tu n'expérimentes pas encore la prospérité divine, parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc tu as ce moment de souffrance qui est sur toi. Tes anciens amis se raillent de toi, ils s'arrangent pour essayer de te récupérer, mais tu marches dans tes convictions, tu dis non. Moi, je ne fais plus cela. Moi, je ne fais plus un débit de boisson alcoolisée, par exemple. Parce que je ne peux pas vendre de l'alcool avec la destruction que ça fait ici. Donc je ne le fais plus. Donc tu perds quelque chose. Comment est-ce que ça va ressusciter? Il va falloir que tu rentres dans les principes de Dieu. Et là tu commences à rentrer dans les principes de Dieu. Tu commences à découvrir que Dieu te veut te faire prospérer. On t'apprend les différentes lois de la prospérité. On t'apprend que c'est une semence. Que ce que tu donnes au Seigneur est une semence. Et une semence, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Ce vieil arbre est mort que tu étais. Et Dieu t'a replanté dans son jardin. Et pour l'instant, tu es une petite plante. La petite plante ne porte pas de fruits du jour au lendemain. Et voir que la petite plante commence à devenir une plante moyenne, puis une grosse plante. Et là, elle va porter son fruit en sa saison. Et tout ça, ça demande du temps. Ça demande d'être reconstruit. Et entre-temps, la petite plante est sujette à la chaleur. Le vent qui vient. Les choses qui s'opposent à elle. Les torrents qui viennent. Mais la petite plante, elle s'accroche à la terre. À la terre divine. Parce qu'elle sait que la vie, maintenant, elle la puise au travers de Dieu. Parce que cette petite plante dans le Seigneur, elle veut s'attacher à son Dieu, être enracinée en Christ.
Et
ça souffle encore. Et vous savez, quand il y a du vent et que la petite plante, elle se courbe. Le gros arbre, il est là. Il est costaud. Il dit, vent, tu peux souffler. Vas-y. Allez, vas-y. Tu crois que je vais me laisser impressionner par toi? Parce que c'est un arbre qui est immense. Il a poussé. Et il porte ses fruits en sa saison. Mais avant d'en arriver là, il a dû souffrir le vent. Il a dû souffrir les torrents. Et il a dû souffrir toutes sortes d'oppositions. Mais il s'est accroché. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Il y a un temps qui est difficile. Il y a un temps qui est difficile. Dans certains domaines, certains parmi vous, vous souffrez. Mais croyez le meilleur. Attachez-vous aux promesses de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi et par la persévérance que nous héritons des promesses. Il y a des choses qui ne se passent pas du jour au lendemain dans nos vies. Ça demande un travail en nous. Ça demande l'absorption de la parole de Dieu. Ça nous demande de changer nos mentalités. Et dans ce coup, ces vieilles mentalités essayent de revenir en nous. Les tentations sont là. Allez, encore un ou deux petits coups de corruption, ça c'est un gros coup, après je serai tranquille. Ton ancien copain qui te rappelle,
tu sais,
là on a l'affaire du siècle. Et toi tu es là en train de souffrir. Ton compte en banque qui est rouge, plus que rouge, est vraiment rouge. Et tu dis, pourquoi ça ne s'est pas passé avant ma conversion? Il y a plein de choses qui reviennent. Dans les temps de souffrance, c'est là où il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Dans le temps de souffrance, la vraie souffrance, on parle là, on parle de la souffrance de Dieu, celle qui attend vraiment la réalisation des promesses de Dieu. Il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut faire. La première chose qu'il ne faut jamais faire, c'est se plaindre.
chambere chukudakora no kwidoga.
Si tu te plains,
oui, doze,
tu resteras dans ton désert.
Oui, dodombe, uguma mu bugarako.
Ne te plains pas.
Ti oui, dodombe.
Mais dis une chose.
Ariko vuga ikintu kimwe.
C'est vrai, j'avais ça avant d'être sauvé.
Niko nivyo nari muri
bibero. Je faisais ça.
Gizwa narabikora.
Ça m'apportait une certaine joie.
Haru munezero vyanzanira.
Mais c'était la joie du péché.
Ariko haru munezero w'ivyaha.
Et je vois ça comme de la boue.
Ivyo ndabibona kibi.
Ça ne m'intéresse plus.
Ivyo se gishaka kubibamo.
Par contre, je sais une chose.
Ariko hari kindi nzi.
C'est que le Seigneur a bien meilleur pour moi.
Nuko mwami hari vyiza kurusha.
Personne m'empêchera d'aller dans le meilleur.
Haru mekana zombuza kubishikamo.
Quand tu prends cette décision.
Iyo ufashe iyo ngingo.
Plutôt que de dire ah Seigneur.
Hakuvuga ngo mana.
Tu vois, avant que je te connaisse, Seigneur,
j'avais
de la viande en Égypte.
Il y
avait des belles tombes en Égypte
aussi. Ah,
vous voyez ce que je veux dire.
Si
vous n'êtes pas convaincu, relisez le livre de l'Exode.
Relisez
le livre des Nombres.
Ça
vous mettra un peu de plomb dans la tête.
Et
souvent, les gens sont comme ça. Ils commencent à se plaindre.
À
essayer de dire, avant d'être sauvé, j'étais comme si. Ne regrette jamais ce qui s'est passé avant d'être sauvé.
Ah,
avant d'être sauvé, dans les boîtes de nuit, au moins on se marrait bien.
Je
ne sais pas pourquoi je parle de boîtes de nuit, mais il doit y avoir des gens ici qui ont ce problème. Débarrassez-vous de ça. Trafiquez pas avec les démons. Ne faites surtout pas ça, faites attention. Très attention. Et il y avait des gens qui avaient une espèce de joie éphémère. Et maintenant, bon, c'est vrai, Seigneur, je te connais, mais bon, bah, la joie du salut s'est passée un peu. La joie du premier amour.
Vous
voyez, tu es là dans la période transitoire. Tu as renoncé à des choses.
Tu
as accepté Jésus.
Mais
là, tu n'as pas encore trouvé la vraie joie du Seigneur. La joie qui te permet de te réjouir d'une façon extrême. Alors que tu es dans la tempête. Alors que tout autour de toi peut aller très mal. Alors que tu entends les mauvaises nouvelles. Si
tu
n'as pas expérimenté ça, c'est que tu n'as pas expérimenté la joie du royaume de Dieu. Et ça s'expérimente. Et cette joie te permettra de passer dans les moments les plus difficiles de ta vie.
Ce
sont des expériences qui n'ont pas de prix, ce genre de choses. Tu peux te retrouver au milieu des pires choses.
Et
à l'intérieur de toi, avoir une joie. Ça, c'est pas la joie qu'une boîte de nuit pourra t'offrir. Surtout le matin. Quand tu te lèves vers 11h au midi,
tu n'as
plus la joie. Mais dans tes oreilles, ça fait. Ça, c'est pas la joie. Ça, c'est quelque chose qui est éphémère. Dieu a beaucoup plus. Comprends que ces choses, c'était du péché. Et le péché a une joie éphémère. Mais après, ça a un prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne vous plaignez jamais dans les moments de souffrance. Un homme qui a su vraiment utiliser ses souffrances, c'est Joseph. Joseph a su utiliser ses souffrances. Joseph a été trahi. On a menti sur lui. On lui a fait tous les coups possibles et imaginables. C'est vrai qu'il s'est mis dans les conditions où on pouvait lui faire des coups, en tout cas quand ses frères l'ont vendu. Mais relisez l'histoire de Joseph. Il
n'y
a pas une plainte envers le Seigneur. Il a su utiliser les mauvaises circonstances pour s'épanouir, pour grandir, pour être fort. Et le jour où il était devant Pharaon, il avait la parole du Seigneur et il avait la solution pour la nation. Joseph ne s'est pas plaint. Ne vous plaignez jamais. Mais dites toujours, de cette souffrance viendra la résurrection. Je prendrai ma vengeance. Vous savez, il y a une bonne vengeance selon Dieu.
Mais
il y a des choses que j'ai dites des années, dans des moments de pire souffrance. J'ai dit, je garantis ça. Un jour, j'aurai ma revanche. J'aurai ma revanche dans le Seigneur. Et quand Dieu te donne cette revanche, en
toi,
vous savourez la victoire. Et là, elle est bonne, cette victoire. Elle est excellente, cette victoire. Parce que c'est une victoire selon Dieu. C'est la vie de Christ qui est venue. Elle est venue dans vos situations. Alors que quand vous êtes là en train de vous plaindre, il n'y aura rien qui va se passer.
Nana kimwe kizoba.
Tu vas tourner dans le désert.
Usanguguma mu bugaragwa.
Comme les Israélites.
Nk'abanyisraeli.
Et régulièrement, tu diras, ah, c'était bien quand je n'étais pas sauvé.
Ugasangura kuri hazunguruka uvuga uti ya ntarakizwa.
Éradique ça de ta vie.
Ibyo bikure byirukane
mu. Si quelque chose veut sortir de ta bouche et se plaindre, récupère tes paroles et remets-les dans ta bouche.
Niba byagira bisoke ubifatira habigira bigiye tubigarure uti subira sha.
La deuxième chose,
Icyakabiri,
c'est de nous rebeller contre Dieu.
No kugaragaza Imana.
Seigneur, puisque tu n'as pas fait ça, je vais faire ça.
Man, ubu rero kutakoze biriya nange ngira ndakwereke ngira nkore.
Je t'ai prié, je souffre trop maintenant, ça suffit, j'en peux plus.
Narasenze sinabonye ukora ubu rero ndahaze
nange. Je meurs de cette souffrance, Seigneur.
Narambiwe ndapfuye.
Je te prie la nuit, le jour.
Ndagusenga
umutaga n'ijoro. Je pleure devant ta face.
Man, ndasinzira
imbere yawe. Tu vois, je t'ai présenté cette situation.
Nakweretse ibimana.
Et tu ne fais rien.
Ariko ntana kimwe wakoze.
Donc là tu accuses Dieu.
Et
tu te rebelles.
La
rébellion amène dans le péché. Seigneur, je t'ai prié pour ce mari. Je t'ai prié pour cette femme. Mais avant, Seigneur, quand j'étais dans le monde, les copains et les copines, c'était facile.
Vous
voyez ce genre de prière? Tu pries ça, mon cher. C'est la rébellion qui vient dans ton cœur. Non, tu devrais dire au Seigneur. Seigneur, je vais devenir meilleur. Je vais m'améliorer. Je vais venir devenir quelqu'un d'excellent en toi. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je le rencontrerai ou je la rencontrerai. Et ça sera la bonne personne. Si tu as cette attitude-là, ça va être excellent. Ça va être excellent. Donc, ne vous mettez jamais dans une attitude de rébellion. Ça vous amènera dans le péché et dans le rétrogradage. Parce que tu ne vois pas la chose s'accomplir. Parce que tu ne te places pas là où il faut. Et tu ne peux plus souffrir, entre guillemets. Tu dis, je n'arrive plus. Je n'en peux plus. La troisième attitude, c'est la foi. La foi te donnera de triompher dans tes situations. Tu souffres, mais tu sais qu'un jour, ça va sortir, le meilleur de Dieu va venir toucher ta situation. Et ça va être extraordinaire. La foi voit toujours le résultat s'accomplir. La foi, c'est marcher avec le résultat, déjà. Donc ton attitude reste toujours positive. Et tu sais que tu es tombé vraiment assez bas au niveau finance parce que tu t'es nettoyé. Mais la foi dit non, non. Ok. J'ai obéi au Monseigneur et je sais qu'il est plus grand que mes circonstances. Je refuse d'être soumis à mes circonstances. La foi dit je vais transformer mes circonstances. Mais la foi dit aussi avant de transformer mes circonstances, je vais d'abord transformer ma mentalité et je vais marcher sur mes circonstances. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il y a ce temps de purification, ce temps de souffrance avant de voir la vie de Christ. Dans ta situation, tu auras ce temps de souffrance. Mais si tu continues à persévérer, à avoir la bonne attitude, à marcher exactement comme Dieu veut que tu marches, à changer ta mentalité, à te dire, mais le royaume de Dieu, c'est quoi dans cette situation? Qu'est-ce que dit Dieu? À persévérer, à avoir cette vision, te dire, non, ce jour-là, ça changera complètement.
Et
je le vois devant mes yeux. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je vis aujourd'hui. Je n'accepte pas de me plaindre pour mes souffrances. Je n'accepte pas de me remettre dans le compromis pour mes souffrances. Je refuse ces choses. Mais je marche avec la vision de Dieu. Je fais de cette pierre d'achoppement, j'en fais un marchepied. Pour aller plus haut. Quand tu as une telle attitude, mon frère, ma
soeur,
tu verras Dieu intervenir. Et tu verras comment Dieu peut te bénir d'une façon spéciale. Le chemin est long. Nous avons une vie à vivre ici. Nos choix sont déterminés par l'influence que la parole de Dieu peut avoir sur nous. Si tu te laisses marcher sur les pieds, si tu te plains, si tes circonstances sont en train de t'envahir, si tu te rebelles, tu vas être malheureux parce que tu as subi le processus de mort, mais tu ne connais pas le processus de résurrection. Tu ne connais pas le processus de résurrection. Parce que tu n'as pas laissé éprouver ta foi par la souffrance. Tu n'as pas accepté qu'il y avait un temps de maturation. Un temps où ta mentalité devait d'abord changer. Afin de pouvoir pratiquer les lois du royaume de Dieu. Lorsque tu commences à pratiquer les lois du royaume de Dieu, les choses vont commencer à changer. Et l'opposition va se faire de plus en plus forte. Les pressions seront encore là. Par contre, quand tu commences à persévérer, tu dis non, je ne lâcherai pas. Rappelez-vous d'une chose. Ceux qui lâchent sont du groupe des perdants. Tu dois être déterminé à une chose. Si tu veux voir la résurrection de Dieu dans ta vie, la vie de Dieu se manifester, prends une décision. Au milieu du feu, peut-être que ce matin tu es dans un feu terrible, mets-toi dans ta chambre, tu t'allonges sur ton lit, tu mets ton coussin sur ta bouche et tu cries, je n'abandonnerai jamais. Si tu fais ça, il y a une puissance qui va venir. Maintenant, je te le dis. Si tu souffres, parce que tu t'es mis dans le péché, si tu souffres, parce que tu as une mentalité qui n'est pas de Dieu, repends-toi. Parce que tu peux dire je n'abandonnerai jamais, là ça ne marchera pas. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils prennent le message de victoire, mais en même temps ils font n'importe quoi. Ils ont des mentalités qui sont complètement nulles, qui sont du monde, et ils entendent un truc à propos de la foi et ils essaient de pratiquer n'importe quoi. La mentalité, l'attitude et la foi vont ensemble. Si tu dis je n'abandonnerai pas, c'est que tu fais exactement ce que Dieu te demande. Comme le dit Pierre ici, tu souffres en faisant le bien, en faisant ce que Dieu te demande, en obéissant à Dieu, non pas en désobéissant. Si tu souffres en désobéissant, le seul chemin c'est la repentance. Après tu auras encore un état de restauration. Ça prendra du temps. Et après Dieu te donnera ta promotion. Mais ça marche comme ça. Il y a le temps de mort, le temps de renoncement. Ensuite il y a le temps de restauration. Et après il y a le temps de promotion. Le problème c'est que les chrétiens veulent passer du temps de mort au temps de promotion comme ça. Désolé, ce n'est pas une loi du royaume. C'est une mauvaise nouvelle, hein? Non, c'est une bonne nouvelle. Parce que le temps de souffrance travaillera ton caractère, éprouvera ta foi, t'amènera à ne plus avoir peur des circonstances. Quand les gens ont un miracle dans leur vie, parce qu'un prédicateur a prié pour eux, c'est bien, c'est stimulant, c'est gloire à Dieu, mais ça ne vous donne pas une foi qui sera, je dirais, tellement forte devant toutes les circonstances. Rien ne remplacera ce processus que je vous explique dans Éphésiens 4. De se dépouiller, faire sa part de responsabilité et de laisser la vie de Dieu
traverser.
Mais entre temps, il y a ce temps de transition, de restauration
qui
implique une souffrance, qui implique de dire non, je ne veux plus penser comme ça, qui implique que nous fassions des choses sans voir encore les résultats, parce que nous commençons à marcher avec Dieu. Et ce temps parfois peut être plus ou moins long, ça dépend de notre attitude. Mais quand nous sommes dans une bonne attitude, cela permet à Dieu de travailler en nous. Et quand Dieu travaille en nous, sa vie commence à couler. Et là, tu étais passé d'une prospérité naturelle, et d'un seul coup tu passes à une prospérité surnaturelle, parce que tu es passé par ce temps de souffrance. Nous allons nous lever, nous allons prier un moment. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.